Bonjour à tous. Vous allez bien? Pas trop stressé par les gilets jaunes? Alors c'est parti. Je vais vous parler du découragement ce matin. Donc j'aimerais que vous soyez encouragés à la fin. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mes paroles n'ont qu'un petit effet, mais le Seigneur, dans sa grâce, lui, a un effet extraordinaire, en tout cas pour nous encourager, nous relever lorsque nous sommes abattus. Et je vous ai mis cette photo, cette image où quelqu'un a un pneu crevé. Et cette image m'est venue tout simplement. Hein, c'est pas, généralement, je n'ai pas trop à chercher longtemps. Et vous savez, quand vous avez un pneu qui commence à se dégonfler, c'est de plus en plus dur de pédaler. Et à un moment, vous arrêtez, vous vous rendez compte qu'il est crevé. Et dans le découragement, c'est un petit peu ça. On peine, et puis à un moment donné, il faut s'arrêter. Et puis on constate les dégâts. Et quelquefois, en démontant, vous voyez une chambre à air qui a déjà beaucoup de rustines. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, en tant que papa, ça m'est arrivé pour moi, mais aussi pour les enfants. Ça m'est arrivé aussi dans un camp de jeunes, tu t'en rappelles, Nikes, où je m'occupais des vélos. Et puis, la crevaison, c'est quelque chose de normal, quoi. Et finalement, le découragement, il est dans cette vie que nous avons à vivre, il est aussi normal. Et vous serez étonnés à la fin du découragement de Jésus, qui est un encouragement pour nous. Et donc je voulais vous parler de ça pour vous exhorter, à même après une crevaison, un découragement. La vie n'est pas finie. Et on repart. En tout cas, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre vous, que la course ne s'arrête pas, mais que vous alliez jusqu'au bout. Et vous verrez à travers donc deux exemples. Combien le Seigneur vient au secours de nos difficultés, de nos faiblesses, à entraîner le vélo ou à entraîner nos vies, parce que nous manquons d'énergie. Nous manquons de... Nous sommes abattus, démoralisés, écœurés. Mais c'est un état qui ne devrait être que passager. Parce qu'autrement, il y a un risque à la fois pour notre santé et pour notre foi. Et donc, il y a un découragement qui peut être subi. On n'y est pour rien. Et puis, il y en a un autre qui peut être quelque part choisi. Donc, je n'ai pas développé là-dessus, mais dans les événements de la vie, il y a des choses que nous subissons. Qu'est-ce que la météo, qu'est-ce que nous pouvons y faire? La voiture dérape et va dans le talus. Eh bien, on n'y peut pas grand-chose. Mais si dans l'autre cas, la route était bien sèche et nous allons trop vite ou nous étions en train de rêver, je ne sais pas, là, nous sommes un peu plus responsables. Et souvent, la question qu'on se pose, le découragement, est-ce que c'est un péché? Alors, on peut dire que, à mon avis, lorsque c'est dû à une maladie, je pense aux dépressions, pour être passé par un moment comme celui-là, je peux vous dire qu'il n'y a rien à faire. C'est, vous posez des questions dans tous les sens, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé, quoi. Et donc ça vient sur vous jusqu'à en sortir. Ça avait été assez rapidement, c'était au bout de 6 mois pour moi. Mais nous ne sommes pas vraiment impliqués dans la responsabilité. Il y a aussi des fatigues extrêmes. Et nous verrons tout à l'heure le cas d'Élie. C'est le premier qui m'a encouragé à l'exemple de sa vie. C'est extraordinaire. Et malgré ça, il y a un abattement terrible. Et autrement, il y a bien sûr les afflictions dues au décès d'un proche, une séparation, où là, ben, nous sommes, il y a un désespoir, il y a une désespérance qui est, parce que nous sommes faits avec des émotions, des sentiments, et quelque part, c'est normal d'être attristé, voire découragé. Et le découragement, donc, il est seulement passager pour moi, et il est normal aussi, parce que nos yeux sont de chair et voient les réalités, les impossibilités. Mais nous pouvons dire aussi, mais Seigneur, nos yeux sont sur toi. Quand nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, quand nous savons ce qu'il a fait déjà dans nos vies, nous pouvons lever les yeux et dire, mais Seigneur, nos yeux sont sur toi. Mes yeux ne sont pas sur les hommes, mes yeux ne sont pas sur des circonstances humaines. Toi, tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Mais Seigneur, mes yeux s'attachent à toi. Mon cœur s'attache à toi. Et nous pouvons dire, oui, c'est un péché, mais plus par les conséquences que ça entraîne. Et les conséquences que ça entraîne, ce sont bien souvent de l'inquiétude, mais qui peuvent nous entraîner aussi dans l'incrédulité. Donc là, effectivement, il y a une séparation de la volonté de Dieu. Mais aussi la crainte des hommes, je vous l'ai dit, l'état de méchanceté des hommes hein, ou de Satan qui les manipule. Et nous sommes effrayés, nous sommes dans toute la Bible, nous avons parlé d'hommes qui sont impressionnés par la puissance d'une armée, la puissance de méchanceté, comme nous verrons tout à l'heure. Élie a été impressionné, non pas par le roi, mais par son épouse Jézabel. Mais aussi, donc, il peut y avoir un état de péché dans lequel nous pouvons tomber quand nous fuyons. Quand nous tombons dans un état de lâcheté. Et là, vous connaissez l'exemple, par exemple, des 10 espions qui sont envoyés par Moïse pour reconnaître la terre promise. Et il n'y en a seulement que 2, Caleb et Josué. Ils ont vu la même chose que les autres. Exactement la même chose. Ils ont dit, oui, on est d'accord, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Éternel, tu nous as dit que c'était le pays dans lequel tu nous envoyais. Alors nous n'allons pas reculer. Et vous connaissez Proverbe 18 hein, qui est affiché là. Hein. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera ? Ah. Quand je vous parlais de la dépression tout à l'heure, c'est vrai qu'on se demande vis-à-vis de quelqu'un de dépressif, mais où elle ressort cassée, où on peut trouver la réparation quelque part. Et c'est compliqué ça, parce que pour avoir été dedans à un moment donné, je ne comprenais rien. Je ne savais pas la source jusqu'au moment où revenu. Donc c'était à l'époque où on était à La Réunion. Et quand on est revenu en France, le diagnostic d'un médecin plus habile que ceux que j'avais vus donc à La Réunion, assez vite a conduit le diagnostic. Et puis, 3 semaines après, j'étais relevé. C'était biologique, c'était pas plus compliqué que ça. Mais quand on est dans cet esprit abattu, bien sûr, qui peut nous relever quoi ? Mais je gardais mon cœur toujours... Forcément, ça m'a conduit dans des moments aussi. Il y a eu un basculement, il y a des différents basculements dans nos vies chrétiennes. Mais ce moment-là, quand on est revenu ici, je sais qu'il y a eu un basculement dans ma vie, dans ma foi. Et le psaume 19 nous dit, « Car il regarde, donc Dieu, du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Il regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. » Notre Dieu se soucie de ceux qui tombent, de ceux qui sont dans un état de faiblesse qu'aucun homme ne peut relever, que quelquefois aucune parole. À l'époque, mon meilleur ami, le pasteur à qui je m'étais confié, C'était même désespérant parce qu'en fait, je ne peux plus m'appuyer sur personne, quoi. Et Luc 4, 18, qui nous rappelle Ésaïe 61, et Jésus qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Et bien aimé, dans ces situations de découragement où quelquefois les choses peuvent s'empiler, et puis c'est vrai, vous voyez jour après jour, mais où est la solution ? Mais le Seigneur a les yeux sur vous. Il sait quand un de nos cheveux tombe à terre. Alors imaginez, dans les profondeurs de nos cœurs, quand il y a le désespoir, il le sait. Et donc le prophète Élie, qui était un grand prophète, qui était suscité par Dieu pour ramener le peuple d'Israël à lui, dans des circonstances vraiment très difficiles, face à un roi idolâtre comme il n'y en avait jamais eu. Acab fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Et donc, Élie est conduit en premier à annoncer une sécheresse et à prier pour que la sécheresse vienne sur Israël. Donc, quelque part, à envoyer une malédiction pour que les yeux du peuple de Dieu s'ouvre. Et pendant 3 ans, il y aura une sécheresse. Et Acab dira à Élie, c'est toi qui es responsable de cette sécheresse, je te ferai mourir. Et un peu plus loin, je vous résume, mais lisez cette histoire. Et un peu plus loin, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est le défi du Carmel. Et vous voyez Élie, d'un courage extraordinaire, tel que celui de David quand il, tout gamin, va affronter un géant. Et donc là, Élie n'a pas peur. Et puis donc, il va quelque part provoquer ce défi face aux faux prophètes de Baal et d'Achéra. Donc il y en a 400 d'un côté et 450 de l'autre, 950 d'un côté et lui tout seul de l'autre. Et puis il leur dit, préparez votre offrande, et puis parce que vous êtes plus nombreux, ça va aller plus vite. Puis moi, j'ai préparé la mienne. Et il prépare son offrande, et puis il en rajoute et il en rajoute. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il met de l'eau plusieurs fois. Et puis pour dire ce qui va se réaliser là, ce n'est pas la puissance d'un homme, c'est la puissance de Dieu. Et donc, les faux prophètes, ils prient, ils se font des entailles dans les bras, je ne sais où. Et c'est vrai, Élie se moque d'eux. Et puis, à un moment donné, donc ça se termine. Donc Élie va prier. Il va demander au Seigneur d'envoyer son feu. Et le feu de Dieu tombe sur l'offrande qu'a fait Élie. Et tout est brûlé. Donc à la fois, donc le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kishon et il les égorgea. Donc Élie, il a commandé les nuages, le feu du ciel. Il a été nourri par les corbeaux. C'est lui. Et chez une pauvre veuve, avec un pot de farine et une cruche d'huile qui ne s'épuisait pas, il a ressuscité le fils de cette veuve. Élie connaît la puissance de Dieu, il connaît la fidélité de Dieu. comme sans doute personne d'entre nous n'avons vu. Et quand nous rentrons dans ce passage de 1 Roi 19, eh bien là, ce n'est plus du tout la même chose. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que le Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit de nouveau, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. » Donc ces événements nous montrent le désespoir qui avait envahi le grand prophète Élie. Et c'est vrai que devant Acab, il n'avait pas eu peur. C'est devant une femme, Jézabel. Et là, c'était une véritable menace spirituelle. Il le savait. Donc, je n'ai pas développé la situation. C'est intéressant d'étudier le roi Acab et son épouse Jézabel. Mais ce n'est pas ce que je vais développer. Donc, il prend peur et rentre dans une grande détresse. Et en fait, on se dit, tout le travail, la solitude d'Élie auparavant, l'a conduit aussi dans une grande fatigue, une sollicitation, parce qu'il était, un homme. Jacques nous dit, Élie est un homme comme nous. Et l'exigence donc de faire front jour après jour à ce combat. Et sûrement, Élie s'attendait à autre chose après que le feu de Dieu soit tombé sur l'autel. Il avait une autre attente, sans doute. Et les choses ne sont pas passées comme il voulait. Donc une déception, sans doute, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis aussi du peuple de Dieu. Et tout ça, on pourrait dire pierre après pierre, dans son sac à dos, ou alors une crevaison après l'autre, et donc il n'a plus eu envie de s'arrêter pour réparer la roue du vélo. Il était épuisé et demande la mort, « C'en est trop maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et là, mes amis, on voit, on le verra à d'autres endroits, la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu est absent ? Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas absent dans nos détresses. Dieu n'est pas absent dans nos solitudes, dans nos désespoirs les plus profonds. Et il se présente d'abord à travers un ange qui le nourrit, qui lui redonne de la force. Donc après, on pourrait se poser des questions pourquoi Élie part dans une direction qui n'est sans doute pas celle que Dieu veut. Mais là encore, Dieu va se manifester. Il va à la montagne d'Horeb, alors que sûrement le Seigneur l'attendait auprès de son peuple. Mais Dieu ne va pas l'abandonner pour autant. Il continue de le suivre pour lui montrer autre chose. Et pourquoi je vous dis, il aura dû sans doute rester avec le peuple, parce que plus tard, il lui a dit, tu donneras l'onction à Élisée comme prophète à ta place. Et donc, il se sentait seul, et vous voyez que le passage se termine par Dieu qui dit, mais j'ai gardé 7000 hommes, tu n'es pas seul. On le verra plus tard, enfin, on le verra plus tard, vous pouvez le voir plus tard, qu'il y a 7000 hommes qui sont restés fidèles à Dieu. Et alors, il disait aussi, il cherche à prendre ma vie. Vous connaissez la fin d'Élie ? Élie est un de ceux qui ont été enlevés triomphalement par Dieu. Il n'a pas connu la mort. Donc je suis tout petit quand vous regardez ça, vous préparez ça, j'ai dit, quel jugement tu peux donner ? Élie, c'est un prophète extraordinaire. Il n'y a pas une sanction sur la vie d'Élie. Donc nous devons bien reconnaître que les pensées de Dieu sont bien au-dessus des nôtres. Amen. Nous sommes quelquefois pris dans notre raisonnement. Nous avons du mal à en sortir. Et même le grand prophète Élie, combien de fois inspiré par Dieu, combien de fois utilisé par Dieu et puissamment. Et on le retrouve, oui, il faut se rappeler tout ça aussi, on le retrouve à la montagne de la Transfiguration, avec Moïse et avec Jésus. Yo, alléluia. Donc mes amis, si vous êtes découragés, peut-être de grandes choses qui vous attendent. Et Jacques, dans un encouragement sur la foi, reprend aussi l'exemple d'Élie. Amen. Donc voilà pour Élie. Mais lisez, savourez l'encouragement qu'il y a à travers cette vie. Après, j'ai pris les disciples d'Emmaüs. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et avec tout cela, voici, c'est le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Alors, je crois que c'est encore plus loin. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous ?» Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem, trouvèrent assemblés les onze et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il t'apparut à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Donc ce passage que vous connaissez également nous parle aussi d'une séparation, d'un deuil, quelque chose vraiment de douloureux, que ces témoins qui étaient avec Jésus ont vécu. Et d'un coup, eux aussi, le plan qu'ils croyaient de la part de Dieu, et bien ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a une espérance déçue. Et ça produit du découragement. On croit. Il y a une espérance qui s'installe. Je ne sais pas depuis combien de temps ils étaient avec Jésus. Donc, peut-être 2 ans et demi, enfin bon, 1 an, je ne sais pas. En tout cas, ils savaient que ce qu'ils ont dit, Jésus était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et alors, ces deux disciples, voyant que pour eux, c'était fini, eh bien, ils s'en retournent à leurs affaires. Hé, on faisait quoi avant de suivre Jésus? Ben, ils retournent à leurs affaires. Et tout attristés par cette espérance que n'a pas été jusqu'au bout. Et ils pensaient que leur service pour Jésus était fini. Est-ce que vous pensez que votre service pour Jésus est fini? Quel qu'il soit. Tant que notre cœur va battre, mes amis, restons les serviteurs de Jésus là où nous sommes. Eux non plus ne comprennent pas où est donc ce plan de Dieu. Et Jésus les reprend sur leur ignorance et leur manque de foi. Car les deux vont souvent ensemble, l'ignorance et le manque de foi. Verset 25, « Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ce que la foi produit en nous, c'est qu'elle ouvre notre intelligence. Et ce livre de la parole de Dieu devient un livre qui, quand on même raisonne un petit peu, même si l'esprit n'était pas là, on voit que toutes les choses sont d'une suite, d'une logique. Parce que le Seigneur a fait son œuvre de mettre dans notre cœur la foi, l'intelligence spirituelle. Hébreux 11, 3 nous dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est la foi qui éclaire notre intelligence. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus prend le temps de les guider à travers les Écritures. Et il ne refuse pas non plus de rester avec eux un petit peu plus longtemps qu'il avait prévu. Parce qu'il voit qu'ils sont toujours abattus et qu'ils demandent à Jésus de rester avec eux, ne l'ayant pas encore reconnu. Et donc Jésus reste là pour les encourager. Et cet encouragement-là, dans la vie de ces deux disciples-là, a retourné leur vie. Je pense que leurs affaires personnelles, ils ont dit, « Ok, on a compris. On retourne à Jérusalem. On retourne avec les frères et les sœurs qui sont restés là-bas. » Il y a eu un impact sur leur vie, clair et net. Alors, ce qui a provoqué le choix de ce thème, c'est quand j'ai lu dans Ésaïe 49 quelque chose que je n'avais pas lu encore. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé. Dès le sein maternel, il a fait mention de mon nom dès ma sortie des entrailles de ma mère. Rappelez-vous qu'Ésaïe, il y a des fois, je dis c'est le cinquième évangile. Parce que là, c'est Dieu qui annonce ce qui va se passer quand Jésus va venir sur cette terre. Et là, ce sont les paroles de Jésus. Verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a dissimulé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui j'aurai ma parure. Et verset 4, mais moi j'ai dit, c'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour le vide, la vanité que j'ai consumé ma force. Vous entendez Jésus dire ça ? Certes, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, Éternel, parle. Lui qui m'a formé de le sein maternel pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit assemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux de l'Éternel, car mon Dieu a été ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Je n'avais pas lu ce verset 4 comme étant le découragement de l'abattement de Jésus. Vous entendez ces mots ? C'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour le vide, la vanité, que j'ai consumé ma force. Et nous pouvons lire aussi dans Ésaïe 53, verset 11, « Après les tourments de son âme, les tourments de son âme, il rassasira ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leur faute. Et ce découragement de Jésus paraît incroyable. Mais il nous manifeste ô combien son humanité, lui entièrement homme et entièrement Dieu. Et ça fait, donc c'est un encouragement pour nous, parce que nous pouvons dire, Jésus a vécu les mêmes situations que nous pouvons vivre. Il a entendu les mêmes accusations que l'ennemi peut nous envoyer. Ton travail ne sert à rien. C'est du vent. Ou ta mission a échoué. Tu peux te rhabiller. Nous pouvons entendre ces choses-là, des paroles de découragement qui nous plombent complètement. Mais quand nous voyons Jésus dire ces mots, nous savons aussi, ça nous rappelle Hébreux 4:15 qui nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre le péché. » Amen. Nous savons, ça c'est la preuve, c'en est une, parce qu'il y en a d'autres, que Jésus a vécu toutes les épreuves que nous pouvons vivre. Quel encouragement d'entendre Jésus, le Fils de Dieu, qui peut dire ça, cette déception terrible. Mais bien sûr, ça n'a pas, pour Jésus, ça n'a pas duré très longtemps non plus, parce que tout de suite, ses regards sont vers le Père. Je suis glorifié aux yeux de l'Éternel, car mon Dieu a été ma force. Car mon Dieu a été ma force. Jésus nous apprend encore à dépendre du Père. Et ce qu'il disait, je fais ce que je vois le Père faire. Dans ces moments de prière, le matin, le soir, le midi, enfin, où le Seigneur s'approchait du Père, qu'est-ce qu'il cherchait à entendre ? Il cherchait à entendre la voix du Père qui lui disait, voilà comment faire. Voilà ma pensée pour toi. Et nous sommes les ouvriers du Seigneur des Seigneurs. Nous sommes ses bras, nous sommes ses mains, nous sommes son cœur, sa bouche, nous sommes son corps. Amen. Et le Seigneur est la tête de ce corps. Et il prend plaisir à ce corps. Le Seigneur prend plaisir à son Église. Amen. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas la course. Il y a cette image qui est, que vous avez pu voir quelquefois quand vous regardez le Tour de France. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a un coureur qui a crevé. On voit le... il est où ? On voit son vélo là qui est sur le bas-côté. Il y a son coéquipier qui s'arrête pour lui donner sa roue. Et donc dans certains cas, voilà ce qui se passe. Le Seigneur envoie quelqu'un pour vous donner une roue de rechange, pour que vous continuiez la course. Ou il envoie celui qui a la trousse à outils avec les rustines et la colle. Mais de toute façon, le Seigneur voit ce qui se passe en nous, voit le découragement. Et donc un découragement ne veut pas dire que c'est l'abandon. Jésus n'a pas abandonné sa mission. Il nous donne les forces. Il nous donne les forces pour aller plus loin. Hébreux 12. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Nous avons toujours à considérer, à lever les yeux au ciel. nous avons reçu Christ. Pour beaucoup ici, je l'espère. Quand nous avons reçu Christ, nous avons reçu tout l'équipement nécessaire. Et chaque jour, le renouvellement de notre esprit par l'Esprit de Dieu. Amen. Et ce découragement, c'est un passage. Et bientôt, ce passage deviendra un encouragement pour les autres. Amen. Donc, je voudrais vous dire, arrêtez la plaie du découragement. Nous sommes ses envoyés pour nous tenir entre les vivants et les morts. Je vous parlerai peut-être de ce passage-là, Dieu voulant, à un autre moment. Amener l'espérance en Jésus-Christ dans des vies qui sont ravagées autour de nous. Nous, nous sommes sortis de ça. Gloire à Dieu. Mais il fait de nous maintenant ses envoyés auprès de ceux qui, ravagés par la maladie, la drogue, le sexe, l'alcool, le péché sous toutes ses formes, Alors l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Amen. Que ce soit notre prière, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ regonfle nos pneus. Amen. Alléluia. On va prier. Seigneur notre Dieu, tu es vivant. Alléluia. Oui, Seigneur, nous nous tenons devant toi avec ce que nous sommes. Et Seigneur, tu as choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Tu nous as utilisés, Seigneur, nous voici encore. Et Seigneur, nous voulons recevoir à nouveau ton amour, à nouveau tes forces, à nouveau ton courage pour nous tenir entre les vivants et les morts. Apportez, Seigneur, ta guérison. Apportez ta parole de bénédiction. Oui, Seigneur, encourage chacun, chacune, Seigneur. Relève, Seigneur, tous ceux qui ont un genou à terre, peut-être les deux genoux à terre, Seigneur. Et dis, j'en peux plus, Seigneur, j'ai rien compris. Merci, Seigneur Jésus, de fermer la bouche de l'adversaire maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu triomphes, Seigneur, des pensées perverses, des pensées mauvaises, destructrices. Alléluia. Et tu mets en nous, Seigneur, tes pensées, tes paroles, Seigneur, tes paroles de vie, Seigneur, qui relèvent, Seigneur. Ce sont des paroles de vie. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté, ta patience, ta fidélité envers nous. Amen. Amen. Soyez bénis, mes amis.